Radio Stable.
Morning edition from NPR News.
Sí, Sandinda de House.
Radio Rosana Piperino.
Lo que se reproduce aquí en la radio.
France Inter. Le 18-20.
Voici un jour dans le monde jusqu'à 19h.
Vučiću voleur.
Voilà, nous sommes en Serbie, dans les rues de Belgrade. Le pouvoir du président serbe est contesté. Ce sera l'escale reportage avec Vanessa Descoureaux. Les étudiants serbes manifestent chaque week-end depuis 3 mois. Sous les radars de l'actualité, avec Amélie Perrier en Israël, au Danemark et en Inde. Le mercredi, c'est le cinéma en VO dans le monde, Eva Bétan. Et le festival du cinéma israélien à Paris, un festival toujours très politique, avec un documentaire sur l'inusable de la politique israélienne, Benjamin Netanyahou. Le monde à l'envers, Jean-Marc Four, la droite européenne face au cas Viktor Orban, le Premier ministre hongrois et ses dérapages populistes. Tout de suite, la finance mondiale qui n'a pas retenu les leçons de la crise de 2008.
Pierre Veil, un jour dans le monde.
Georges Hugeux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous publiez « La descente aux enfers de la finance » aux éditions Odile Jacob. Vous êtes un spécialiste de la finance internationale, banquier d'affaires. Vous avez été vice-président de la Bourse de New York et vous tenez un blog sur le site du Monde. Alors, ce livre, c'est une mise en garde. Vous prévoyez une nouvelle crise financière en 2020. Et nous serions, c'est vous qui le dites, hein, nous serions dans le déni. Pourquoi ?
Je crois que nous sommes arrivés à un niveau où les États ont dépassé le niveau d'endettement qui est raisonnable et qui va leur permettre de tenir. C'est la seule chose dont ils ne parlent pas. Et je crois que la première chose qu'il faut faire, c'est dire au public que la situation est sérieuse et qu'elle est grave et que ce n'est pas une manipulation politique, mais qu'on va prendre l'affaire en main et qu'on va le faire sur quelques années, mais qu'on va devoir un tout petit peu, si je puis dire, ou beaucoup, se serrer la ceinture.
Georges, je vous rappelez dans ce livre que ce sont les banques qui ont mis le feu aux poudres il y a 10 ans. Et vous dites que là, maintenant, la crise bancaire s'est muée en crise de la dette publique massivement détenue par les banques et les banques centrales. Expliquez-nous.
Ce qui s'est passé, c'est que les banques centrales sont intervenues pour sauver les banques. Ça a duré 3-4 ans. Et puis, subitement, elles se sont lancées dans une nouvelle politique monétaire et elles ont accumulé, je dis bien des trillions, c'est-à-dire des milliers de milliards de dollars ou d'euros ou de yens à travers le monde en obligations d'État. Elles sont passées du rôle purement de régulateur de marché à une situation dans laquelle elles sont devenues investisseurs. Elles l'ont fait entre autres pour maintenir les taux d'intérêt à un niveau relativement bas, ce qui a permis aux États de continuer à emprunter. Ce jeu se termine.
Mais alors, que faut-il faire si on veut éviter cette crise financière que vous prévoyez peut-être là l'année prochaine, en 2020 ?
C'est comme pour un ménage. Si on a trop d'actifs, il faut les vendre. Si on dépense trop, il faut réduire ses dépenses. Et il faut aussi augmenter ses recettes. Or, pour le moment, aucun de ces trois éléments n'a lieu.
Alors, dans ce livre, vous passez en revue différentes politiques économiques. Vous parlez de la politique économique de Donald Trump et vous dites qu'elle est particulièrement dangereuse.
Elle est extrêmement dangereuse. Nous venons de connaître les chiffres du premier trimestre de 2019. Le déficit budgétaire en un an a monté de 77%. Ce sont des chiffres colossaux. C'est insoutenable, mais M. Trump a décidé que ce n'était pas un souci. Il l'a dit haut et fort, et qu'il allait continuer à vouloir faire son mur, augmenter les dépenses militaires, etc., et diminuer les impôts. C'est une politique suicidaire pour les États-Unis.
L'Italie est aussi évoquée longuement dans ce livre. Vous décrivez le risque italien et vous écrivez que la crise des banques italiennes sera peut-être la prochaine grande crise européenne.
Il y a en fait une extraordinaire connexion entre l'État et entre les banques en Italie. L'État a finalement secouru Monte dei Paschi alors qu'il y avait des acheteurs, mais c'était des acheteurs étrangers. Aujourd'hui, 2300 milliards de dettes, 130% du PIB, en récession, avec des banques qui ont acheté beaucoup trop d'emprunts d'État. L'ensemble est un cocktail aussi relativement explosif, parce que la conséquence immédiate, comme les taux sont passés de 1 à 3% pour l'Italie, c'est que le déficit budgétaire va exploser.
Et ça peut menacer toute l'Europe ?
Les montants sont trop importants pour qu'on puisse les traiter comme on a traité la Grèce. Mais rappelez-vous, même en période grecque, nous étions très inconfortables. Seulement ceci, c'est 10 fois la Grèce.
Alors, il y a la France, évidemment. La France, la dette publique atteint 97% du PIB. Je voudrais que vous expliquiez ce chiffre et ses conséquences. C'est un petit peu abstrait, si j'ai bien compté. C'est 2300 milliards d'euros.
C'est 2300 milliards d'euros. Et
c'est la dette publique de la France.
C'est la dette publique. Nous savons exactement que les deux derniers gouvernements en ont remis 1000 milliards. Donc nous sommes dans une situation où nous continuons à faire des dépenses que nous ne pouvons pas compenser par des recettes. Et donc tout ce que nous voulons dépendre, que ce soit les 10 milliards qu'on a donnés récemment, on va tout devoir financer par la dette. Et la difficulté, c'est que ce jeu, comme pour les particuliers, comme pour vous et moi, ce jeu a une fin.
Les dirigeants des pays connaissent tous ces chiffres. Ce ne sont pas des irresponsables.
Non, ce ne sont pas des irresponsables. Ils sont acculés dans un système où ils ne sont pas capables ou ne veulent pas prendre les conséquences.
Et pourquoi ils ne veulent pas?
Parce que c'est difficile. Parce que c'est difficile, d'abord, il va falloir augmenter l'impôt des entreprises. Les entreprises ne contribuent quasiment pas au budget national, moins de 10%. Il est indispensable que les entreprises y aillent. Les entreprises ne sont absolument pas preneurs d'augmenter leur fiscalité. Par contre, elles ont des charges sociales trop élevées. Il faut diminuer le coût de ces charges sociales. Il y a tout un travail à faire dans lequel les entreprises, les banques et les gouvernements se mettent autour de la table en disant « Nous savons tous que quoi qu'il arrive, nous sommes tous concernés. Parce que nous allons tous en souffrir, donc essayons d'éviter le pire. Quelles sont les mesures possibles ?»
Vous écrivez dans ce livre, je rappelle, paru chez Odile Jacob, Georges Jugeux, La descente aux enfers de la finance, que les banques centrales sont devenues juges et parties. Expliquez-nous.
Aujourd'hui, les banques centrales ont qui avaient avant des bilans relativement normaux, ont aujourd'hui accumulé tellement de dettes qu'en plus de tout ce qu'elles doivent faire dans la politique monétaire, le contrôle des banques, la politique de taux d'intérêt, etc., elles se trouvent maintenant coincées parce qu'elles sont devenues quasiment des fonds communs de placement en emprunt d'État. Et donc, à partir de ce moment-là, elles deviennent effectivement jugées parties.
Et vous dénoncez également dans ce livre ce laxisme des banques centrales et vous dites que les gouvernements profitent du laxisme des banques centrales pour ne pas faire les réformes nécessaires, réformes que vous avez développées, mais qui signifient, par exemple pour la France, des efforts sérieux et pas très populaires.
Ce qui sera important pour moi, c'est que les efforts que l'on doit faire doivent être partagés de telle manière que ce ne soit pas uniquement les mêmes qui payent. Les entreprises doivent accepter une augmentation de la fiscalité. Dans la taxation, il faut repartir sur une harmonisation fiscale avec l'Europe, parce qu'aujourd'hui, les États se font une concurrence à celui qui va imposer le moins pour avoir des investissements. Et le résultat, c'est que c'est une descente vers le bas dans laquelle les recettes diminuent. Et puis, il y a le problème de l'égalité de traitement fiscal entre les mieux nantis et les très riches. Et un des problèmes que vous vivez, qui est spécifiquement français, c'est la suppression de l'ISF. Quelles que soient les raisons pour lesquelles il a lieu, il faudra trouver un remplacement. L'ISF lui-même n'est pas une bonne solution, mais il faudra assurer que l'équilibre soit tel que nous n'ayons pas ce sentiment que la population a, c'est-à-dire que quelles que soient les décisions qui sont prises par les gouvernements, c'est pour les riches.
La crise financière, pour vous, elle est inéluctable?
Non, pas du tout.
Vous pensez qu'on va entendre votre diagnostic et que les gouvernements vont se ressaisir et affronter enfin ce problème de la dette énorme, gigantesque?
Ils la connaissent. Ils ne savent pas comment s'adresser au public par rapport à cette situation. Ils ne savent pas s'ils ne risquent pas leur futur politique en disant la vérité. Ils se taisent. On est dans une situation de déni. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il est temps qu'on fasse une opération vérité, qu'on traite les électeurs comme des adultes. Je crois que la crise de confiance existe en grande partie parce que le discours n'est pas crédible.
Mais vous voyez bien ce qui se passe actuellement en France, cette crise des gilets jaunes, ce grand débat lancé par Emmanuel Macron. À aucun moment, il n'est question des chiffres astronomiques et effrayants que vous évoquez dans ce livre pour nous dire qu'on va tout droit vers une nouvelle crise financière.
Il est évident que quand vous êtes l'emprunteur et que vous avez l'avantage d'emprunter dans des conditions excellentes, vous n'avez pas envie nécessairement d'être la source du signal d'alarme. C'est donc de l'extérieur du système que doit venir le signal d'alarme. Je ne suis pas seul. Récemment, le patron d'un fonds qui détient 8000 milliards de dollars, qui est le plus grand fonds du monde, a dit que la politique monétaire était complètement erronée, la politique qui a été menée dans les dernières années. Donc, je crois que tout le monde sait que nous avons atteint les limites de l'endettement. Tout le monde craint la hausse des taux d'intérêt. Je crois qu'il est plus que temps maintenant qu'on se mette autour de la table. Je suis frappé du fait que le Fonds monétaire parle de la dette des entreprises. Elle parle de la dette des pouvoirs des pays en voie de développement. Elle ne parle pas de la dette des pays occidentaux. Or, c'est celle-là qui est préoccupante.
Il y a un chiffre que j'ai relevé dans ce livre. Vous dites que les 10 plus grandes fortunes de France ont augmenté de 60 à 250 milliards d'euros depuis la crise financière de 2008.
Exact. Ce chiffre ne vient pas de moi. Il est parfaitement officiel. Mais je veux simplement dire, il faut faire attention à quelque chose, parce qu'il y a Piketty, etc. Il y a beaucoup de choses derrière. Quand on mesure la richesse des gens, on mesure leurs actifs. Ne croyez pas que ces 280 milliards n'ont pas été assortis, eux aussi, de dettes à des conditions bien bon marché. Tout le monde en profite.
On va vers une catastrophe, selon vous, à coup sûr. Parce que, pour l'instant, on a l'impression que vous prêchez dans le désert, là.
Pas vraiment. Je peux vous dire que, rencontrant les gens que je rencontre, il y en a beaucoup, y compris M. Trichet, qui dit, bon, on l'a fait avec d'autres intentions, mais il reconnaît le diagnostic, de manière très claire dans la conclusion de sa préface. Je crois qu'on sait qu'on doit faire, je crois qu'on sait qu'on doit agir, on ne sait pas comment, mais je crois aussi qu'il est important que de plus en plus, la conscience aille au-delà des initiés et amène le public à réagir en disant « attention, nous ne souhaitons pas être les victimes de cette crise comme nous avons été les victimes de la précédente ».
Mais on peut vous répondre que finalement, tout le monde vit endetté. Pourquoi est-ce que les États n'auraient pas des dettes énormes ?
Les États ont une dette qu'ils peuvent prendre à condition que le coût de cette dette soit compensé par des recettes. Sinon, que se passe-t-il ? Ils doivent emprunter pour payer les intérêts, et donc la boule continue à croître, et à la fois la dette et les intérêts continuent à augmenter.
Alors, dans ce livre, vous revenez évidemment sur l'histoire de cette crise qu'on a vécue en 2008, et vous, spécialiste de la finance, ancien numéro 2 de la Bourse de New York, vous exprimez votre sidération. Vous êtes toujours sidéré devant l'escroquerie monumentale réalisée par Madoff. Ça vous laisse sans voix.
Eh bien, ça m'a laissé sans voix.
Et vous le détaillez et vous l'expliquez.
Écoutez, on sait que les opérations qu'ils prétendent avoir faites n'ont pas été faites, mais je vais vous donner un seul exemple. Quand vous détenez un fonds et que vous le vendez à d'autres, il y a une série d'actifs, des obligations, des actions qui vont se mettre en dépôt quelque part. Eh bien, comme il n'y avait pas d'obligation ni d'action et qu'on continue à rembourser avec l'argent des nouveaux, on a découvert qu'il n'y avait pas d'actifs. Mais on a aussi découvert que le système qui avait été mis en place était un système à l'intérieur de Madoff. Et les banques qui sont intervenues et les régulateurs américains ont été complètement déficients.
Il n'y a plus de Madoff aujourd'hui, impossible ?
Absolument pas impossible. Il n'y a rien aujourd'hui qui peut empêcher, malheureusement, les mécanismes de fraude. La régulation a pour objectif d'empêcher les excès dans des institutions. La fraude, c'est de la criminalité, et je crains malheureusement que j'ai une mauvaise nouvelle, la criminalité ne s'arrêtera pas demain.
Georges, je rappelle ce livre chez Odile Jacob, La descente aux enfers de la finance, avec une préface de Jean-Claude Trichet, un livre qui est quand même inquiétant, puisqu'il nous annonce de graves difficultés financières si les gouvernements ne réagissent pas face à l'immensité des dettes publiques. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de France Inter.
Merci beaucoup.
France Inter. Pierre Veille. Un jour dans le monde.
Notez que vous retrouverez Fabienne Sintès demain à Maastricht, aux Pays-Bas, de 18h à 20h. Deuxième étape de son périple en Europe avant les élections européennes du 26 mai. Des invités, des reportages pendant 2 heures à Maastricht, symbole d'un accord signé il y a 25 ans et qui pour certains ne passe toujours pas. L'occasion aussi de mieux connaître les Pays-Bas. On s'intéressera aussi à la situation en Allemagne, en Suède et en Estonie. Fabienne Sintès, demain soir, 18h, 20h sur France Inter, Un jour dans le monde. en direct de Maastricht. À suivre dans Un jour dans le monde jusqu'à 19h. Escale reportage, Vanessa Descouroux en Serbie où la contestation du président Vučić prend de l'ampleur. Amélie Perrier sous les radars de l'actualité. Et puis le mercredi, le cinéma dans le monde, le cinéma en VO avec Eva Bétan. Bonsoir Eva.
Bonsoir.
Un documentaire consacré à Bibi.
Et oui, les élections israéliennes, c'est le 9 avril et il n'est pas inintéressant de savoir comment Benjamin Netanyahu est devenu King Bibi. C'était une des unes du Times et c'est dans le cadre d'un festival sur le cinéma israélien qui a lieu en ce moment à Paris.
Mais à tout à l'heure, Eva. Oui. Vers 18h55, le monde à l'envers. Jean-Marc Four, bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
La droite européenne face au cas Viktor Orban.
Et oui, en ce moment même, le PPE, le grand groupe parlementaire de la droite européenne, est réuni pour sanctionner enfin Viktor Orban, et je vais vous dire, le Premier ministre hongrois, il a même pas peur.
À tout à l'heure, Jean-Marc. Le groupe Falls, ils sont anglais, ils viennent d'Oxford, ils n'avaient pas sorti d'album depuis 2015. Eh bien, c'est terminé. Enfin, un nouveau CD de Falls. Son titre, c'est « Everything not saved will be lost ». Je traduis. Tout ce qui ne sera pas sauvé sera perdu. Un extrait. Exits. Le groupe Falls, le nouveau CD avec cet extrait Exits, c'est un album France Inter, 18h37.
France Inter.
Good evening and welcome.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
sous les radars de l'actualité, c'est maintenant avec Amélie Perrier. Amélie, des effluves nauséabondes en pleine campagne électorale en Israël.
Oui, le pays vote le 9 avril pour renouveler le Parlement et la nouvelle vidéo de la candidate Ayelet Shaked a au moins réussi à faire sensation. Elle a été vue des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux.
Fascisme. Mapecha Shiputit.
Alors pour visualiser, ça ressemble à une pub pour un parfum en noir et blanc, très élégante. La candidate, Ayelet Shaked, par ailleurs ministre de la Justice aujourd'hui et très photogénique, se prête au jeu comme un mannequin. Elle saisit un flacon au nom provocateur, fascisme. Et les mots qu'elle murmure là d'une voix suave, je vous traduis, fascisme, révolution judiciaire, restriction des mouvements activistes, des juges nommés par le pouvoir, fascisme. Et là, elle va dire « Pour moi, cela sent pareil que la démocratie ». Alors en fait, Ayelet Shaked, de la droite nationaliste, veut ici tourner en dérision les accusations de fascisme de ses détracteurs. Car elle critique souvent les institutions, la Cour suprême en particulier, ses décisions contre la colonisation. Dimanche encore, elle s'insurgeait contre la Cour qui disqualifiait des élections le chef d'un parti d'extrême droite accusé de racisme et qui validait de l'autre côté une liste arabe. Pas sûr que tout le monde ait compris le second degré dans cette fausse pub, même des responsables politique condamne son apologie du fascisme. En tout cas, Ayelet Shaked n'est pas la seule à franchir les limites dans une campagne très disputée. Beaucoup de partis ont misé sur des clips très limites, ultra-violents même. Le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, a dû s'excuser pour l'une de ses dernières vidéos tournées sur les lieux d'un attentat et dans un cimetière militaire. Une campagne dont on reparlera au cinéma avec Eva Béton tout à l'heure.
Elle est entrée au Parlement au Danemark et a voulu le faire avec son bébé, Amélie.
Oui, la députée Mette Abildgaard, son parti est dans la coalition gouvernementale de centre-droit. Elle assure que la situation était tout à fait exceptionnelle. Jamais avant, sa fille de 5 mois n'était entrée dans l'hémicycle. Mais là, elle n'a pas pu faire autrement. Elle devait aller voter une loi. Elle n'a pas demandé la permission car elle avait déjà une collègue amener, elle avait déjà vu une collègue amener son bébé dans la salle sans problème. Sauf que voilà, la présidente du Parlement lui a dit clairement qu'elle n'était pas la bienvenue avec son bébé. Donc au Parlement, lui a demandé de quitter les lieux. Elle s'est exécutée, a laissé son bébé à un collaborateur pour revenir voter. Et elle a raconté l'épisode sur son compte Facebook. Et là, les internautes se sont passionnés pour l'incident. Il faut dire que les enfants sont une priorité dans ce pays. Les mères peuvent avoir un congé parental de près d'un an. Mette n'est pas un cas isolé dans le monde. En 2016, vous vous souvenez peut-être de cette députée islandaise qui donnait le sein à la tribune du Parlement. Et puis en 2017, en Australie, Larissa Waters en faisait de même. Vous n'avez pas l'image et vous n'entendez même pas que la députée Waters, debout face à ses collègues, est en train d'allaiter son bébé. Le débat avec les autres députés se poursuit comme si de rien n'était. En septembre dernier, la chef du gouvernement néo-zélandais, Jacinda Ardern, dont on parle beaucoup ces derniers temps après la tuerie de Christchurch, Jacinda Ardern, en septembre dernier, donc avait amené son bébé à l'Assemblée générale de l'ONU. Mais que fait le Danemark alors, lui, si progressiste sur bien d'autres sujets?
Mais il termine ce tour du monde en Inde puisque débute aujourd'hui le festival Holi.
Alors vous avez déjà certainement vu les images de ce festival où les Indiens dans la rue se jettent de la poudre de toutes les couleurs. On chante, on danse, c'est extrêmement photogénique. Toutes ces couleurs vivent dans les rues, d'où une certaine récupération ces dernières années par Sony ou Canon pour mettre en valeur leurs appareils et leurs objectifs dans leur publicité. Mais CNN propose aujourd'hui de remettre un petit peu d'authenticité là-dedans car Holi est une fête importante en Inde, le début du printemps et l'occasion d'abolir les différences sociales et générationnelles. Les enfants peuvent asperger les personnes âgées et les castes n'existent plus le temps d'une fête. Selon CNN, donc, les poudres de couleurs trouveraient leurs racines dans l'histoire d'amour mythologique de Radha et Krishna. Krishna, représenté avec la peau bleu foncé, se serait plaint à sa mère du teint trop clair de Radha. Alors la mère de Krishna, pour soulager son fils, lui a suggéré de peindre la peau de Radha, d'où la tradition aujourd'hui de colorer les êtres chers lors de Holi. Voilà, je vous envoie plein de couleurs.
Sous les radars de l'actualité, Amélie Perrier, je ne vous dis pas à demain, demain vous avez quartier libre.
Effectivement.
Voilà. Émission spéciale de Fabienne Sintès
à Maastricht.
Aux Pays-Bas pendant 2 heures.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem,
Pékin, le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
San Paolo,
Beyrouth,
France Inter.
Escale, reportage, direction la Serbie qui souhaite rejoindre l'Union européenne. Là-bas, la contestation du pouvoir du président Vučić gagne en intensité. Les opposants, de plus en plus nombreux dans les rues, l'accusent d'être un autocrate qui bâillonne l'opposition et les médias. Depuis 3 mois, des manifestations sont organisées, notamment par les étudiants dans de nombreuses villes et bien sûr dans la capitale, Belgrade. Sur place, reportage Vanessa Descoureaux.
Le point de départ des manifestations est inchangé depuis 3 mois. C'est toujours au pied de la faculté de philosophie, dans le cœur de la vieille ville de Belgrade. Ce soir-là, la marche doit se terminer au pied de la RTS, Radio-Télévision Serbe, média public à la botte du pouvoir, celui du président Aleksandar Vučić, leader autoritaire, qui écrase l'opposition politique et qui promet une répression sévère contre cette fois l'opposition de la rue, animée principalement par des étudiants comme Philippe, âgé de 22 ans.
Ils trouvent ce qu'il faut pour te menacer, t'effrayer, c'est ce qu'ils font. C'est un autocrate. Il représente ici une forme de stabilité, mais si les gens n'ont pas de liberté, qu'est-ce que veut dire la stabilité? C'est une évidence que seul le pouvoir l'intéresse.
Le cortège s'arrête devant les locaux de la télévision publique à l'heure exacte du grand journal du soir. Toutes les lumières dans le bâtiment principal sont éteintes. Des policiers sont postés à l'intérieur. Dehors, les manifestants organisent un faux journal télé avec des invités qui ne pourraient jamais être en plateau sur ce média public.
Deuxième invité du journal Snežana Lakinčević.
En résumé, l'histoire de cette femme, c'est quoi?
Alors, c'est une femme qui est ingénieure et qui participe aux manifestations parce qu'elle a notamment été témoin d'abus de pouvoir et de corruption. Et du coup,
dans sa société qui est
une usine de production d'électricité aux alentours de Belgrade qui s'appelle Kolubara. Elle a été dégradée à la position de nettoyeuse dans l'usine, balayeuse.
D'ingénieur à balayeuse.
Si nous nous arrêtons maintenant, on n'y arrivera jamais. On ne sera jamais sauvés. Merci, citoyens courageux.
Depuis notre passage à Belgrade, ce jeune homme qui harangue la foule a été arrêté, placé en détention. Aleksandar Vučić a été élu en 2017. Ancien nationaliste qui a travaillé aux côtés de Slobodan Milošević, il a été d'ailleurs son jeune ministre de l'information. Un radical de l'ultra-droite qui a subitement fait sa transformation pro-européenne, c'était il y a 10 ans. C'est donc lui, désormais l'interlocuteur de Bruxelles, l'interlocuteur de tous les leaders européens, ce qui est troublant pour le leader d'un des partis d'opposition, Zoran Lutovac, président du Parti démocrate.
L'Union européenne, en faisant ce choix de soutenir un autocrate, met à distance les citoyens pro-européens. Et cette façon de faire instille peu à peu le doute sur le choix du chemin européen.
La Serbie est candidate officielle à l'adhésion européenne depuis 2012. Depuis, les négociations se font au ralenti entre une Union empêtrée dans un Brexit qui n'en finit pas et une Serbie qui n'en finit pas de ne jamais se réformer. D'où un long mais certain déclin du rêve de l'adhésion, explique Suzana Grubjević, elle est secrétaire générale du mouvement européen.
Si on adhère en 2025 comme prévu, ça fera un quart de siècle depuis la chute de Milošević et le tournant démocratique. Donc c'est une longue route, c'est sûr.
Trop long.
Too long, yes.
Maybe the enthusiasm. Peut-être que l'enthousiasme pour l'Union européenne va chuter à force. Si ça prend tout ce temps, le danger, c'est de voir une Europe passive, en retrait. et d'autres pourraient être plus actifs ici. Je parle des trois autres acteurs, la Russie, la Chine ou même la Turquie. Tout le monde est intéressé. Les Balkans occidentaux sont un terrain de jeu pour tous.
Même si l'Europe est de loin le premier partenaire économique de la Serbie, ces derniers temps, les principales acquisitions économiques et stratégiques sont tombées entre les mains des Russes et des Chinois.
La longue marche européenne de la Serbie, reportage complet de Vanessa Descoureaux ce dimanche dans Interception. Interception, le magazine de la rédaction de France Inter, c'est de 9h à 10h donc le dimanche. Ce fut l'un des plus grands succès pop en 1967. The Letter, par un groupe qui a disparu, qui s'appelait les Box Tops, chanson reprise quelques années plus tard par Joe Cocker, mais aussi par Al Green en 1969.
Ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are cold and I'm going home. Baby, done wrote me a letter. Look at here now, I gotta say, I don't care how much money I gotta spend. Got to get back, get on back. Baby, one more again. Lonely days are gone. I'm going home. My baby done wrote me something on a piece of paper. Yeah, wrote me a letter. Said she couldn't live without me no more. Oh, oh, oh. Listen, Mister, can't you see? For an airplane, no, no. I gotta get back and see my baby again. No, no, no. Lonely days ago, I'm going home. Baby done wrote me a letter. When she wrote me a letter, I said she couldn't live. She couldn't live without me no more. Without me no more.
Green, The Letter, 1969.
3, 2, 1, Letter. France Inter.
Movies are made of light.
Le 18-20.
Appelons ensemble votre jour.
And the winner is...
Un jour dans le monde.
Action! 70 years after the murder of 6 million Jews, Iran's rulers promised to destroy my country.
C'était la voix de Benjamin Netanyahou, le cinéma du monde, le cinéma en VO, le mercredi avec Eva Bétan. Eva, il y a en ce moment à Paris le Festival du cinéma israélien, c'est jusqu'au 26 mars, et vous avez pu voir un documentaire particulièrement intéressant compte tenu du fait que les élections israéliennes auront lieu le 9 avril. Ce documentaire porte sur le pivot de la politique israélienne, l'indéboulonnable, tout au moins jusqu'à présent, Benjamin Netanyahou. Le titre du film est tout un programme, King Bibi, et il est réalisé par Dan Shadow.
Alors King Bibi, on entend les militants du Likoud au cours d'un meeting hurler King Bibi, King, avec une voix mais folle d'amour. King Bibi, c'est aussi le titre du magazine Times que l'on voit. Ce documentaire ne fait pas le bilan de la politique de Netanyahou. Il explique comment Benjamin Netanyahou est devenu Bibi, King Bibi. Comme dans une tragédie, ça commence par une mort. C'est une mort qui le propulse aux premières loges. Il est le fils cadet. Il étudie aux États-Unis, il se destine aux affaires et son frère aîné meurt en 1976 au cours d'une opération célèbre, le raid d'Entebbe, menée pour libérer des otages. Dan Chadour.
When his
Quand son frère, dont il était très proche, est mort, son frère en qui leur père voyait le prochain leader d'Israël, la carrière politique de Bibi a démarré. Yoni Netanyahu, le frère de Bibi, était considéré comme un grand héros en Israël. Le père de Bibi est un historien. Il comprend l'importance des mythes. Il voyait la mort de son fils comme faisant partie du mythe juif. Il y a eu beaucoup de manifestations autour de Yoni. Et très souvent, Bibi était invité pour venir parler de son frère. Et là, on s'est rendu compte qu'il était un excellent orateur.
Et lui aussi le réalise. Il est très bon en communication avant qu'il y ait le culte de la com. Il est très pro aussi là-dessus, il se forme à ça. Il y a aussi une autre notion importante, c'est qu'il incarne la modernité. Il y a une image dans ce film qui est frappante. On voit le premier ministre Yitzhak Shamir à côté du président Reagan. Et lui, est en arrière-plan, il travaille à l'ambassade, il est sur la photo. Shamir, c'est l'ère des pionniers. C'est l'image, c'est le Israël avec l'idéal socialiste. Et lui, c'est la modernité, celui qui va emmener Israël vers le capitalisme. Il y a quelque chose qui aurait dû le tuer, Netanyahou. Et il va survivre.
Eva, mais qu'est-ce qui peut expliquer cette durée exceptionnelle de Benjamin
Netanyahou?
Il est là au
premier depuis 2009.
Il va battre, s'il est élu, le record de longévité en tant que Premier ministre de Ben Gourion. C'est la com, la modernité, mais ça suffit pas.
Alors, il y a une scène qui est passionnante dans ce film. C'est au moment des accords d'Oslo. Il est totalement contre. On voit un meeting du Likoud. Il ne hurle pas avec les loups, mais il est là et dit rien, où les gens crient à mort Rabin. Rabin est assassiné. Sa carrière politique devrait être terminée. Il est élu quelques mois après.
Ce qu'il a compris à ce moment-là, et dont il est toujours conscient aujourd'hui, c'est qu'il y avait une grande partie de la société israélienne qui se sentait négligée et stigmatisée par les médias. Car les médias, à cette époque-là, étaient très contre la droite. Bibi a compris cela et il n'a pas paniqué quand les sondages le donnaient loin derrière Shimon Peres après la mort d'Isaac Rabin. Il a su être tenace, il n'a pas varié dans ses idées, il a compris que les gens reviendraient vers lui parce qu'il avait le sentiment d'être pris pour cible par les médias et par la gauche.
Élections à venir, pour les élections à venir, le réalisateur ne s'avance surtout pas. Il dit une chose intéressante, il a construit une sorte de contre-vérité, qu'il passe par les réseaux sociaux, il a été précurseur là-dedans, et on verra quelle vérité va jouer, celle des procureurs, des juges, des médias, ou son discours à lui propre.
Je rappelle le titre de ce documentaire, Eva Bétan, c'est King Bibi de Dan Shadour, Benjamin Netanyahou, un homme qui a toujours su aussi parfaitement jouer sur les peurs en Israël et expliquer à longueur de journée que ce pays est menacé de destruction. Et ça lui a permis aussi, sans doute, de garder le pouvoir dans ces conditions-là. Merci Eva.
Le 18-20, Pierre Veil. Sur France Inter.
Le monde à l'envers avec Jean-Marc Four, le Parti Populaire Européen, le principal groupe de droite au Parlement de Strasbourg, s'est donc décidé à sanctionner la Hongrie. On vient de l'apprendre il y a une dizaine de minutes. Il a choisi cet après-midi de suspendre le Fidesz, le parti de Viktor Orban, après ses nombreuses dérives extrémistes. Mais cette demi-sanction cache une victoire pour Viktor Orban. C'est votre monde à l'envers, Jean-Marc.
C'est une décision mi-chef mi-chou, hein, ni oui ni non, et elle en dit beaucoup sur l'état de l'Europe, peut-être plus encore que la cacophonie consternante du Brexit. Alors, de qui parlons-nous? D'un homme qui, un peu comme un enfant, teste chaque jour un peu plus l'autorité de ses parents. Depuis qu'il est au pouvoir, le Premier ministre hongrois ne cesse de repousser les limites de la provocation vis-à-vis des Européens. Il y a belle lurette qu'il a dépassé les lignes rouges fondatrices de l'état de droit dans l'Union Européenne. Il considère que la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire est inefficace. Dans son esprit, le pouvoir décide et tout le monde obtempère. La justice est donc mise au pas, la presse est muselée, les ONG sont poursuivies, la corruption règne sur les marchés publics, le népotisme favorise les proches, le tout avec un discours anti-immigration au fort relent d'antisémitisme. Sauf que pendant des mois et des mois, personne n'a rien dit. Non, ce qui a fait déborder le vase, ce sont les affiches en Hongrie, je vous les montre ici en studio, dénonçant la politique européenne sur les migrants, des affiches montrant à la fois le milliardaire américain George Soros et le président de la commission Jean-Claude Juncker, pourtant du même parti qu'Orban, un comble. Et là, c'en était trop. On ferme les yeux sur l'atteinte aux valeurs démocratiques, mais on ne supporte pas une attaque personnelle, je cite, c'est déloyal. Et au bout du compte, ça vient donc de conduire, enfin il y a 10 minutes, à cette demi-sanction, cette suspension du Fidesz. Oui.
Jean-Marc, c'est quand même une sanction et c'est une première.
C'est vrai, et d'abord on se dit enfin du courage, 190 voix contre 3, donc la décision est claire, mais le Parti Populaire Européen n'est pas allé au bout de sa logique, exclure le Fidesz, il se donne jusqu'à l'automne pour trancher. Et en réalité, le parti de Viktor Orban continue de défier son groupe de rattachement. Le PPE demandait des excuses, Orban les a faites du bout des lèvres sans prononcer le mot « sorry ». Le PPE demandait de retirer les affiches avec Juncker, elles sont toujours là dans certaines villes hongroises et parfaitement disponible sur Internet. Le PPE exigeait le maintien à Budapest de l'Université d'Europe centrale. Orban refuse. Donc le bras d'honneur du Premier ministre hongrois continue. Et en face, le PPE se contente de le suspendre. Pourquoi ? Parce que les dirigeants de la droite européenne font un double calcul. Un, le PPE a besoin des voix du Fidesz pour espérer conserver la présidence du Parlement européen après les élections de fin mai. Les autres grandes parties de centre-droit, la CDU en Allemagne, LR en France, Forza Italia en Italie, vont sans doute reculer, donc il faudra compter sur des alliés plus petits. C'est un calcul d'apothicaire. Deux, plus noble, le calcul stratégique, ne pas exclure le parti hongrois pour conserver la brebis dans le troupeau si vous voulez éviter son glissement vers l'extrême droite, ne pas risquer aussi une scission entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Le problème, c'est que c'est un double pari hasardeux.
Et pourquoi ça ne marcherait pas, Jean-Marc ?
Alors, il y a plusieurs raisons. On va reprendre le calcul d'apothicaire d'abord. Rien n'assure qu'après le scrutin de fin mai, le Fidesz restera au sein du PPE. Beaucoup prêtent à Viktor Orban l'intention de claquer la porte après le vote pour créer un groupe plus radical, autonome, avec la Ligue italienne, le PiS polonais, le FPE autrichien. Et dans ce cas, la droite européenne traditionnelle aurait tout perdu. Sur le calcul stratégique ensuite, le PPE n'est pas en train de garder le Fidesz dans son giron idéologique comme il l'espère, c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire un glissement idéologique du PPE vers le Fidesz, ses positions nationalistes et anti-migrants. Et d'ailleurs, c'est le but assumé de Viktor Orban, devenir le nouveau centre de gravité de la droite en Europe. Enfin, dernier paramètre, cette demi-décision entre deux chaises témoigne d'une absence de cohérence politique entre les deux grands courants de la droite, la démocratie chrétienne, la droite conservatrice. Comme son pendant de gauche, finalement, le groupe social-démocrate, le PPE n'a plus de cohérence. C'est pour ça que les électeurs boudent de plus en plus ces partis traditionnels de gouvernement. Donc Viktor Orban, on se résume, aurait tort de se priver de continuer à défier Bruxelles.
Le monde à l'envers, Jean-Marc Four.